Quatrième numéro de Comedy News Weekly Podcast, ça veut dire qu'il y en a trois autres si vous avez envie de rattraper ce qui s'est passé dans le passé. Parce que comme l'a dit le proverbe, ah, il n'y a rien qui vieillit mieux que les blagues. Ça, c'est très, très connu, ça. Et d'ailleurs, quand tu regardes la programmation de France 2 pour l'instant, c'est l'impression que c'est ça qu'ils se disent comme proverbe. Non, mais de toute façon, l'humour, ça vieillit pas. On met des vieux trucs. Avec Anthony Mirelli, comme à chaque semaine, salut.
Salut Dan.
Ça va bien?
Ça va et toi?
Très bien. Tu vas raconter un truc, je savais qu'on enregistre. T'allais faire ton, je sais pas, ton marché, tes courses ce matin, et t'as eu droit à une scène de petite vieille spectaculaire.
Ouais, devant un Deleuze, avec un, il y avait une espèce de petit marché comme ça, un marchand de légumes, un marchand de fruits, et un mec qui vendait des olives, quoi. Il y a une petite vieille qui passe avec son chien et qui jette une cendre dans un bol d'olives et qui gueule au mec, ça l'arabe.
Enfin.
Et après, c'est barré.
Sans se retourner.
Non, non, mais moi j'ai regardé le mec, j'ai éclaté de rire. Ouais. Lui, je pense qu'il s'est demandé quoi, qu'est-ce que je fais, de toute façon, je vais quand même pas la frapper, on m'a vu, enfin, tu vois, il y a quand même des gens. Et cette femme a continué, et je me suis dit, putain, les couilles qu'il faut, pour déjà, bon, être un peu con, mais je sais pas, j'ai halluciné.
Oui, parce que tu ne m'enlèveras pas de l'idée que c'est quand même un tout petit peu raciste ce qu'elle a fait.
Un tout petit peu, oui, c'est sûr, mais c'est surtout très très drôle.
Mais enfin! Mais t'imagines le truc, pour moi, peut-être que. Elle, depuis qu'elle a 12 ans qu'elle est raciste, elle dit « Quand je vais avoir 82, plus personne va oser me frapper, puis je vais enfin dire tout ce que je pense. » C'est comme les petits vieux qui peuvent être pervers, parce que genre ils matent le cul là, puis ça fait tellement inoffensif.
Mais ça tombe, elle est partie, on l'a pas vue, mais comme elle était de dos, elle a commencé à rigoler tout doucement, tu vois.
Ou encore, on l'a pas vue quand elle a tourné le coin, puis il y a trois personnes qui l'attendaient, puis ils ont défoncé sa gueule.
C'était mérité, en tout cas.
Non, voilà. En plein dans leur face, quoi.
Ah ouais, il était 11h, tu t'attends pas à ce genre de truc, quoi, à cette heure-là.
Non. Et si tu t'y attends, t'as une weird, weird vie. Je... Bon, cette semaine, t'as pas mal de trucs, surtout des trucs en télé.
Ouais.
T'as noté pas mal de choses dans le monde de la comédie.
Et j'ai peut-être une petite news ciné avant, comme ça, après on peut passer direct à la téloche. On avait parlé d'Anchorman, la suite.
Ouais.
En attendant que le film sorte, ils vont faire, toute l'équipe du film, une lecture en live du scénar du premier.
Sérieux?
Pour une association caritative. Les places sont à 500 boules.
Ah ouais.
Toutes les places, donc il n'y a pas le choix. C'est premier arrivé, premier servi. Mais tout le monde sera là. Ça, c'est hosté par Conan O'Brien. Et il y aura Joe D'Apato et Adam McKay en plus de tout le casting. Donc ils vont tous se mettre à table et lire ça. Et je pense que ça va être. Enfin, ça risque d'être assez drôle.
Et ça se passe où?
Ça se passe à Santa Monica.
Ah ouais, donc
ouais,
c'est 500 pour rentrer mais 1500 pour le billet d'avion, donc c'est ouais, voilà, un peu compliqué.
Non, mais c'est une super idée, c'est pour donc une assoce, ils font ça le 21 novembre et ça doit quand même être un truc à vivre.
J'avoue que ça a l'impression de voir les coulisses, un peu de voir le table read.
Ouais.
C'est drôle pour eux un table read une fois que le film est déjà fait aussi. Non, c'est le truc que tu fais, tu vois, une fois que t'as les scénarios, tu te réunis pour voir un peu la chimie entre les acteurs. Ça doit être drôle de le refaire une fois qu'ils ont déjà fait le film.
Surtout que là, ouais, ils ont fait les deux, du coup, et là, ils relisent le premier.
Well, that escalated quickly. Et j'ai vu que la date de sortie, parce que David Koechner est un peu partout en ce moment, il fait la promo, donc j'étais allé fouiller, et ça sort que fin décembre, en fait.
Ah, c'est vrai, je pensais que ça sortait plus tôt que ça.
Ben oui, mais j'ai cru voir fin 20 décembre la sortie US.
De toute façon, est-ce que chez nous, ça va vraiment sortir?
Ben, ça va sortir 6 mois après, j'ai l'impression.
Oui, une semaine, parce que les films de Will Ferrell, ça marche pas des masses. Hein.
Non, mais c'est très américain, c'est vrai que...
C'est comme Adam Sandler et tous ces machins-là, ça marche pas chez nous.
Alors que Adam Sandler, peu importe ce qu'il fait, même s'il fait genre des 1h30, genre les meilleurs PDSL de Adam Sandler, il va quand même aller chercher un 40 millions en général, donc...
Ils sortent ces films les moins bons, genre Grown Ups et tout ça, ils sont sortis, ils ont eu une grande, grande campagne ici à Bruxelles...
Grown Ups?
Ouais, le 2, ici, qui est sorti cet été, quoi. Quoi d'autre? Il y a Fox qui va enfin foutre son catalogue des Simpsons à la vente.
Syndication, en gros, tu peux expliquer ce que c'est?
Il faut, en tout cas, une base d'au moins 100 épisodes, mais après, ça veut dire que tu peux vendre un package à d'autres chaînes ou à d'autres entités locales qui, eux, rediffusent. Ils en font un peu ce qu'ils veulent, ils rediffusent quand ils veulent.
Donc, les télés américaines sont un peu comme les radios en Europe, c'est-à-dire que chaque station locale a un certain nombre d'heures locales où là, ils peuvent vendre leur pub locale. C'est comme ça qu'ils font leur fric. Et donc, ils ont le nom NBC, etc. Mais après ça, ils ont des trucs à programmer, entre autres les news, justement, des trucs locaux. Et c'est là qu'ils achètent des packages. Donc, c'est pour ça que des fois, tu peux avoir, on dirait, Seinfeld sur Fox.
Ouais.
À Plattsburgh, parce qu'eux ont racheté les paquets d'émissions. Et c'est comme ça aussi que les auteurs et les humoristes se font, les acteurs se font un paquet de blé parce qu'il y a tellement de marchés que si on y met en syndication et que tu as 87 marchés qui l'achètent, ben forcément, c'est là que tu deviens super.
Et c'est ça aussi qu'on voit de temps en temps des news, genre telle ville refuse telle série.
Ouais.
Par exemple, l'année passée, il y avait The New Normal, c'est une série avec deux gays. Il y avait, je pense, une entité d'NBC, je ne sais pas où, perdue dans le fin fond des États-Unis.
Ça voulait pas de Salt Lake City, si ma mémoire est bonne.
Ouais, ça
c'est la
voix
des Mormons, quoi.
Ouais, voilà. Et voilà, c'est pour ça qu'eux, à la limite, peuvent refuser certains. Certains... Ouais.
Playboy Club aussi avait été refusé.
Ouais, voilà.
Par ces trucs-là. Et donc, voilà, ça veut dire que pour nous, ça ne changera pas grand-chose.
Non, ça ne change rien pour nous, mais c'est assez juteux pour la Fox, parce qu'ils ont quand même 530 épisodes.
Ah oui.
C'est un paquet de dingue. Et là, la syndication serait rien que pour des chaînes câblées.
Ok.
Donc, Comedy Central, ce truc-là. Et ils comptent vendre ça 1,5 million l'épisode.
Par épisode ?
Ouais. Donc, oh, mais t'imagines, tu peux leur diffuser. Après, une fois que tu l'as, quoi. Donc,
ok, tu l'achètes à vie.
Tu l'achètes à vie. Donc, ils vendraient la totale, donc les 530 épisodes, pour 800 millions.
Un bon deal.
Mais ils disaient dans l'article, c'est quand même une marque de dingue, les Simpsons.
Oh oui, clairement.
Je pense que le deal est quand même assez avantageux. Et il disait, par exemple, tu peux te permettre, ce que Fox ne peut pas se permettre pour l'instant, c'est de consacrer tout un mois d'octobre, le mois d'Halloween, à rediffuser que des épisodes d'Halloween. Tu peux faire des spéciales, tu peux grouper des épisodes,
tu peux faire un marathon.
Tu peux
décider
ce que tu veux, quoi.
Pendant une semaine, de les diffuser tous.
Voilà. Bon, ce serait un peu con avec 530 épisodes, ils ont quoi tenir quoi, un an et demi, quoi.
Ça, ben, c'est une demi-heure, donc ça fait 265 heures.
Dans
un cas, ça fait 10 jours, ça fait 11 jours. Si tu fais même non-stop.
Mais s'ils en diffusent un par jour, moi je disais.
Un par jour, bah, 500, ça fait 2 ans. Ouais. Bah, un an et demi. Excellent calcul mathématique. Donc,
ouais.
Voilà. Et ça continue, les Simpsons. Une anecdote, parce qu'on venait de parler de Late Show tout à l'heure, je sais pas si tu savais, mais Conan O'Brien, qui est donc sur TBS, qui fait le Late Show, à l'époque, il a commencé sa carrière, il est allé sur SNL, mais il a aussi été writer pour les Simpsons. Et il y a entre autres un des
Conan?
Oui, Conan O'Brien, le roux. Tu vois le...
Ouais, je vois bien, mais les Simpsons, je ne savais pas.
Et un des épisodes peut-être les plus forts de l'histoire des Simpsons, c'est le fameux épisode du monorail.
Et quoi, c'est lui qui l'a écrit?
Et c'est Conan qui a écrit l'épisode du monorail, donc je me dis que c'est une anecdote intéressante à glisser avant de passer.
Mec.
C'est dingue, hein?
Incroyable.
C'est pas très connu, mais c'est assez intéressant, je trouve. Allez, news suivante.
J'avais parlé d'un peu des séries de la rentrée.
Oui.
La semaine passée, je ne sais plus.
Il y a deux semaines.
Il y a deux épisodes qui ont été diffusés.
Dads, il y a eu
Dads, mais d'abord, il y a eu Brooklyn Nine-Nine, parce que je vais aller très vite là-dessus.
Ouais.
La série d'Andy Samberg.
Ouais.
C'était drôle, voilà.
Oui, c'était réussi.
Tu sens qu'il y a du potentiel et il y a quoi tenir une bonne petite saison. Et tu vois déjà un peu, c'est la même équipe que Parks and Rec à la tête, donc tu vois un peu, il y a des similitudes entre les personnages, tu peux à la limite faire des comparatifs et tu sens que ça va évoluer et que...
Parfait, donc tu recommandes, tu donnes...
Je recommande.
Mais bon, une cote de combien de Mirelli sur 5?
4,5, allez. Oh. Non, je ne sais pas, mais c'est qu'un premier épisode, mais bon.
Voilà. Et puis en plus, un pilote, c'est pas toujours évident qu'il soit drôle parce qu'ils ont tellement de trucs à placer, puis des fois tu le sens qu'ils ont essayé de tout placer. Donc le premier est drôle, c'est vraiment bon.
J'ai lu une interview du créateur, donc Mike Schur, enfin du co-créateur, et sa façon d'expliquer comment il a défini les personnages et les personnalités des personnages, c'est assez intéressant. Tu vois qu'il a de l'expérience quand même derrière lui et qu'il sait ce qui va pouvoir évoluer.
Attends, il y a déjà les arches pour les personnages, donc voilà. Donc Brooklyn
Nine-Nine,
parfait, donc à suivre.
Par contre Dads,
ouais,
c'était catastrophique.
Donc toi t'as regardé les deux,
hein? Ouais. Donc Dads, c'est la série avec Giovanni Ribisi et Seth Green,
ouais,
produit par Seth MacFarlane. J'avais dit que c'était créé par Seth MacFarlane parce qu'ils l'ont vendu tel quel, mais c'est produit, il y a d'autres personnes à la tête. C'était raciste, c'était pas drôle, c'était... On aurait dit une vieille série des années 90, à cette époque où tu pouvais faire des blagues sur les gays, les Chinois et les Noirs, et
ça passait.
Il y avait un rire enregistré, et tu disais pas comme maintenant, ah bon. Tu vois?
Oui, il n'y avait pas le reaction shot après du gars qui, pour établir le fait que celui qui a dit un commentaire raciste, c'est moyen.
Voilà. Toi, si j'avais vu la petite vieille ce matin, mais dans les années 90, j'aurais dit bien dit petite vieille, tu vois, et j'aurais continué.
Oh, ouais. Bien envoyé, ça.
Bien envoyé, ça crache dedans. Bon, soit. Ça a été très très mal reçu par la presse.
C'est quelle chaîne déjà qui diffuse?
Fox.
Ok.
Ils vendent ça comme le produit de cette MacFarlane, parce que la typo est en vert sur fond blanc, comme le film Ted.
Oui.
Enfin, ils jouent à mort là-dessus. Mais c'était quand même pas drôle. Ils ont 15 sur 100 sur Metacritic.
C'est un peu le Rotten Tomato pour les séries.
Voilà. Oui, pour les jeux vidéo, ils s'occupent de plein de jeux, mais en gros, ils reprennent les critiques un peu globales. Ils font une cote...
Oui, tu en avais parlé l'autre semaine.
15 sur 100,
c'est peu.
Ouais. Et il y a des critiques, enfin, je vais peut-être les mettre sur le Tumblr, mais des petites phrases de Hollywood Reporter USA Today, c'est assez violent. Je vais pas le faire ici parce qu'elles sont en anglais, mais.
Elles sont.
Tiens, elles sont là.
Je suis quand même curieux de voir. Hollywood Reporter a dit: insipid, pandering, racist, and unfunny. Le Time a dit: dated, cheaply provocative, and laboriously unfunny. Ah putain, dit genre péniblement pas drôle. This sitcom has something to offend everyone: Christian, Jews, gays, Asian, Latinos, women, and anyone with an IQ over 70. Donc le Boston Herald a dit: cette série a de quoi pour choquer tout le monde: les chrétiens, les juifs, les gays, les asiatiques, les latinos, les femmes, et n'importe qui a un QI au-dessus de 70. Oui, non, effectivement, c'est assez.
C'est assez violent, mais c'est justifié parce que dans la série, le premier épisode.
Mais toi, t'aimes déjà pas Seth MacFarlane, t'aimes pas son style à la base.
Ouais, mais peu importe, là, c'était vraiment.
C'est pas subjectif, c'est objectivement naze.
Ouais. Et ils sont tous les deux, donc les deux héros qui vivent avec leur père sont patrons d'une société de jeux vidéo et ils doivent vendre un jeu qui s'appelle Kill Hitler 2, je crois, à des Chinois. Et ils se disent: on a une associée chinoise, on va la faire habiller en petite écolière. Comme ça, elle va draguer. Alors, elle rigole comme les écolières japonaises, leurs mains devant la bouche. Et ça se termine. Ils ont le deal parce qu'en fait, il y avait un des Chinois qui a envoyé une photo de sa bite à la gonzesse. Et elle a dit: soit vous prenez le deal, soit j'attaque en justice avec cette photo.
Okay.
Et ils terminent en regardant la photo sur le téléphone. Et ils rigolent parce que les Chinois, ils ont des petites bites et que...
Ah ouais.
Voilà. Mais c'est des blagues. Mais c'est vraiment... tout le temps comme ça, bam bam bam.
Parce que normalement le gag, c'est, il t'envoie genre.
Et il paraît qu'à la base, parce que ça a été réécrit, ouais. Elle avait le deal parce qu'elle avait fini par coucher avec le mec.
Ok.
Donc ils ont réussi à. Ou alors ils disent au début, moi mon père, ils font un peu une compétition de moi mon père c'est le plus nul parce que.
Ouais.
Elle dit: oh, arrêtez de vous plaindre, moi mon père il me frappait quand j'étais petit avec des livres de maths. Tu sais, parce que les Asiatiques sont forts en maths. Et il y avait une phrase qu'ils ont coupée aussi, je crois que c'est Giovanni Ribisi qui disait: ouais, mais nous on peut se plaindre parce qu'on est blanc. Donc c'est nul, mais ça a été réécrit, c'est ça le pire.
Ah ouais. Et t'as fouillé en salle pour être capable d'avoir des premières versions.
Non,
des,
c'est. Je ne sais plus quel article j'ai lu.
Tu lis tellement de journaux américains à un moment donné. Hein,
à un moment donné, tu.
On perd, c'est tous les mêmes.
Voilà, mais bon, c'était intéressant à savoir que. De savoir qu'il y avait pire, quoi.
Mais ce qui est horrible, c'est qu'en général, dans ces séries-là, j'imagine que tu sens venir l'accident industriel. Tu sais, quand tu dois réécrire...
Mais je comprends pas, c'est qu'il y a quand même un paquet de gens talentueux, ne fût-ce que Ribisi et Seth Green.
À fond.
J'ai du mal à comprendre comment ils s'embarquent dans des histoires pareilles.
Je sais que t'aimes pas Seth MacFarlane, mais moi, je trouve que son... quand tu regardes ne serait-ce que Family Guy, que moi, j'aime vraiment beaucoup...
Je l'aime pas, mais il sait ce qu'il fait.
Et c'est, je veux dire, c'est pro, c'est limite trop justement séquencé et c'est très gimmicky, tu vois. C'est à toutes les fois, j'ai le gag de Family Guy classique, c'est ça me fait penser à la fois où petite scénette qui rejoue la fois où. Mais tout et puis les auteurs qui travaillent dans Family Guy sont c'est Alex Salkin entre autres qu'on peut suivre sur Twitter de Salk qui est super marrant. Et je sais pas, tout est bien foutu, mais ce que je capte pas dans le gag que tu me dis, c'est que c'est un gag en plus qui est super attendu. Et normalement, leur force à eux, c'est que t'as l'espèce de gag qui est super attendu et ils reviennent avec la huge punchline derrière qui ramène le tout. Mais là, c'est...
Et qui conclut l'épisode surtout. Donc tu restes avec ça en bouche, comme ça, avec ce goût amer et tu te dis...
La bite du chinois que tu
restes. Ouais, je reste avec en bouche.
Le gag de la bite du chinois.
Voilà.
Donc bien, c'est une petite bite, mais un gros gag. Ouais.
Non, mais franchement, c'était... Et même visuellement, c'est dégueulasse. Tu sens que c'est gros rire enregistré. L'éclairage est dégueulasse. Enfin, tu sens le studio, quoi. Tu sens les limites des murs et que l'éclairage est vraiment pas très très haut. Enfin, je sais pas.
T'es bord cadre à chaque fois.
Mais oui, t'es vraiment... C'est une vieille série des années 90, quoi.
Et donc, j'attends toujours, moi, de voir le deuxième épisode parce que des fois,
paraît qu'il est pire.
Ok.
Ouais, il paraît qu'il est pire. J'ai pas repris la quote ici, mais il paraît qu'il est pire. Et j'ai oublié c'était quoi le pitch, mais...
Enfin, des fois, le premier épisode, c'est le pilote, et par des sociétés d'économie, ils diffusent le pilote, même si c'est pas tout à fait, mais là, c'est...
Non, parce que là, ils ont envoyé un package à la presse.
Ouais.
Là, ils envoient tout le temps les DVD promos. Il y avait déjà quelques épisodes en boîte. Là, ils doivent être en train de tourner le 5 ou 6e, si en toute logique.
L'épisode qui sera donc pas diffusé.
Et, mais, je sais pas, je crois que dans les audiences, ça s'est un peu planté. Oui, non, ça s'est planté. Ça s'est planté. Brooklyn Nine-Nine, qui est passé juste avant, je pense, a bien marché.
Ok.
Donc, comme quoi, il y a de l'espoir.
Mais tant mieux. Tant mieux voilà, que le truc qui a fonctionné, parce que j'avoue que j'étais pas très optimiste avec la série policière Andy Samberg et tout. Hein.
Ben moi non plus, mais en fait ça marche quand même pas mal. Tu sens qu'il y a une bonne alchimie entre le cast et que...
Yeah. Ben écoute, ça fait du bien de parler d'au moins un truc qui a fonctionné après la semaine dernière où on a parlé de 2-3 trucs moyens. Et d'ailleurs, la transition sera facile parce que tu reviens avec le comédie central français et j'ai nommé France 2. Qu'est-ce qui se passe là-bas?
Je ne sais pas.
On en parlait avant, d'après moi, le mec qui programme l'humour sur France 2, quand il était adolescent, sa nana s'est barrée avec un humoriste vraiment drôle et il a juré de se venger, tu vois. Il s'est dit, plus jamais je donnerai la chance à des humoristes drôles. Il se venge avec sa programmation, t'as l'impression.
Mais même, c'est même pas un souci de programmation parce qu'il y a des mecs comme qui sont drôles dans l'histoire. Enfin, on parle quand même de l'émission en gros, l'émission de Sophie Aram. Bon, il y avait d'autres choses. On va pas revenir encore sur Y a pas d'âge, mais...
Non, j'ai pas regardé.
T'as des mecs qui, comme Elie Semoun, bon, il sait quand même ce qu'il fait. Arnaud de sa mère, il sait quand même ce qu'il fait. Oh. Et moi, j'ai vu deux extraits sur YouTube de Arnaud de sa mère. C'était pénible à voir. Hein. Le mec n'avait aucune répartie. Elle est complètement morte. Le regarde avec des yeux comme ça, vides.
Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a une dette envers qui? Pourquoi est-ce qu'on l'a forcée à faire une émission qu'elle a... Moi, c'est ça que je capte pas. C'est une chouette émission.
Mais en gros, il y avait des soucis de production. C'était une case qui devait être occupée absolument parce qu'en face, la concurrence est rude. Il y a Touche pas mon poste à cette heure-là. Il y a C'est à vous. Il y a Le Grand Journal. Enfin, c'est la case. Et que enfin, France 2 devait combler de toute façon. Ils ont cherché 1 million de téléspectateurs.
Aussi.
Ils cherchent 1 million de téléspectateurs, mais ils ont cherché plein de présentatrices ou de présentateurs. Tout le monde a refusé. Des mecs comme Ruki ont dit non, mais je veux, c'est casse-gueule.
Ouais.
Et ils ont pris cette pauvre fille qui n'a jamais fait de télé. Donc,
Mais ce que je capte pas, c'est qu'elle est. Je veux dire, la fille, elle a du bagage. Elle a un show, son show s'appelle, je crois, Crise
sur,
de foi.
Sur
non,
scène.
Son spectacle sur scène.
Son spectacle, ouais. Crise de foi.
Crise de foi. Elle a eu quand même, je veux dire, poste de chroniqueuse à la matinale de France Inter, c'est pas rien. La nana, elle a pas l'air d'une conne dans l'absolu. Elle passe assez bien à l'écran. Mais il y a un truc. Moi, ce que j'ai vu.
Mais ce que tu disais était juste, hein, qu'elle avait l'air de pas vouloir animer l'émission.
T'as vraiment qu'elle a pas envie. C'est comme si un truc où t'as l'impression qu'elle s'est rendue compte que ça allait pas aller et qu'elle est un peu gênée d'être associée à son propre truc. Et il y a des séquences, ça c'est vraiment
mais
la francisation.
Comment ils voient ça seulement maintenant? Parce que la première a été enregistrée pour des soucis de réglage, etc. Maintenant, c'est en live. Mais ils ont quand même fait des répètes. Ils ont quand même fait des tests avant.
Moi, j'étais dans des projets qui sont foireux. Et plein d'autres fois. Et souvent, ce qui arrive, en tout cas, dans l'expérience personnelle, c'est que le concept te fait fort rire. Tu commences à mettre des trucs sur papier qui vont pas du tout. Tu vous rends compte que ça va pas du tout. Mais entre le moment où tu mets des trucs qui vont pas du tout et la diffusion, il y a une nette amélioration. Et donc, toi, tu vois la nette amélioration. Et tu vois plus.
Parce
qu'il
y a.
Juste complètement en dessous, tu vois.
Parce qu'il y a un concept. Ici, le concept. T'arriverais à résumer le concept?
Si on va essayer de mettre le plus de séquences possible dans le moins de temps possible, comme ça, les invités qui sont là, on apprendra.
Mais moi, je me demande comment ils ont pitché à la chaîne, quoi.
Ah, mais tu peux te le faire, le pitch à la chaîne. On fait un talk show un peu américain dans un grand studio où il y a 3 plateaux, comme ça, il y a différents moments. On peut changer les plateaux pendant qu'on est sur un autre plateau.
Ils font que ça, ils font que marcher.
T'as une animatrice, Sophie Aram, qui a de l'expérience, qui est blablabla. Après ça, on va te mettre François Berland, on va te mettre des séquences avec Elie Semoun dans ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire des séquences enregistrées. Arnaud de sa mère dans des trucs un peu surréaliste parce qu'il est vraiment fort. T'as dénoncé une case où les gens sont habitués de voir justement des Arnaud de sa mère de ce monde parce que dans cette case on te demande qu'à en rire si ma mémoire est bonne.
Ouais, ou un peu avant,
ouais,
après, mais on
peut pas. Un orchestre, c'est de la nouveauté, ça dynamise le truc. Et comme en face avec le petit journal et où Touche pas mon poste, c'est aussi des talk shows façon américaine, on arrive avec notre spécificité. On va mettre une nana qui l'anime comme ça, on est aussi différent et on montre que.
Mais enfin, moi je trouve ça.
D'après moi, c'est ça, c'était ça le
truc. Assez pitoyable. Après, tout le monde est en train de la défendre parce qu'il y a plein de gens qui l'attaquent et c'est oh, mais laissez-lui le temps. Mais non, le temps, ils l'ont eu, ils ont eu tout un été. Ils diffusent, ils ont commencé leur rentrée quoi, le 14, le 13. Ils sont déjà 2 semaines après tout le monde. Ils ont eu le temps de préparer le machin. Je pense que tu peux pas te planter sur une case pareille, sur une grande chaîne pareille.
Que ce soit pas excellent, ça, pour moi c'est pas grave parce que même Seinfeld, pour prendre un exemple, les 2-3 premières saisons.
Oui, il faut du temps, mais là moi je vois mal comment tu peux réparer cette erreur de. C'est une erreur de parcours, c'est une catastrophe pour moi. Parce que je sais pas si t'as regardé les pastilles. Je sais bien que t'as vu Elie Semoun.
J'ai regardé
la télécommande.
Deux de Elie Semoun, ouais.
T'as trouvé ça drôle?
En fait, moi, ce que j'ai pas compris, c'est le. Moi, Elie Semoun, je l'ai déjà dit ici, moi, il me fait rire. Je trouve qu'il y a quelque chose, il me fait. Lui, il me fait rire. Mais c'est le côté où. T'as le gag, tu le vois venir. Moi, j'ai vu une séquence où il regarde Kaamelott à la télé, puis il dit, ah, putain, c'est super Kaamelott, j'adore. Je me demande où sont arrivés, où en sont les mecs aujourd'hui. Et à ce moment-là, tu le sais ce qui va arriver. Puis après ça, il dit, dis, garçon. Et là, quelqu'un qui arrive et devine qui c'est qui arrive.
Astier.
Ben oui.
Oui,
Et
je
tu
l'ai
dis,
vu.
quel gaspille
Le talent.
de featuring, tu vois. Tu fais venir quelqu'un, c'est la pire chose que tu pouvais faire. Et la deuxième séquence que j'ai vue, c'était il y a un t-shirt I Love Paris, et il est avec Charlotte Gabris, donc la brune, en train de regarder le JT. Puis au JT, il disait un homme petit, brun, Paris, a agressé des gens aujourd'hui. Il avait un t-shirt I Love Paris, et sa technique était toujours la même, inviter les gens à venir boire un verre chez lui.
Un truc de thé, là, c'est ça? Ouais, je
Et
l'ai vu aussi,
ça,
ouais.
puis il se retourne, il dit, tu veux un petit thé?
Voilà. Et le premier gag du premier épisode, il regarde un film d'horreur avec sa gonzesse et ils rigolent tous les deux en se disant « Oh, ça fait pas peur, oh, on l'a déjà vu venir, oh, il est derrière la porte. » Tu vois, classique. Et il y a leur gamin qui arrive derrière le fauteuil et qui dit genre « Je sais pas, mon papa, j'ai soif ou je dois faire pipi. » Et ils hurlent tous les deux. Et tu dis « Attends, mais tu commences ta nouvelle série par ça? » Par cette blague que probablement Jésus faisait déjà, enfin tu vois.
Ouais. Jésus, il avait pour ça un bon gag. Jésus, enfin, bref. Peut-être pas commencer à faire de l'humour de Jésus, mais j'ai l'impression que des fois il y a un petit souci entre aussi le fond et la forme. Moi, je les ai trouvés honnêtement très drôles, les petites annonces d'Élie Semoud. Vraiment, j'ai ri fort plein de fois quand je les regardais. Alors que l'humour français, quand t'es canadien là-bas, c'est un peu rude. D'ailleurs, il y a beaucoup de Français qui viennent et qui pleurent au festival juste pour rire. Parce qu'on n'a pas, c'est pas qu'un est meilleur que l'autre, ben, moi je trouve que si, mais c'est surtout que c'est pas le même code, ça devrait pas avoir le même nom, tu vois, c'est pas tout à fait la même chose. Et lui, il faisait vraiment rire, mais il faisait des trucs un peu ridicules comme ça, mais la forme allait avec. Mais là, la forme, elle est hyper pro. Tu vois, les images, elles sont léchées, je trouve qu'elles sont belles. Le montage, tu vois, c'est une espèce de grain un peu cinéma comme ça.
Le seul truc que j'aime bien, c'est entre deux gags, ils font à chaque fois un nouveau truc avec une télécommande. Ils mettent du beurre dessus, ils la plongent dans du café, ils la. Enfin.
Le petit jeu, le bon vieux jeu d'impro où tu dois te servir un objet comme si c'était un autre objet. Robin Williams fait ça
Moi, je
très
trouve
bien, là.
ça.
Ouais,
C'est le seul truc qui est bien.
c'est divertissant, mais il y a un décalage entre les deux. Le petit gag un peu ridicule ne demande pas des moyens de cinéma. Je trouve qu'ils faisaient la même chose, mais un peu en cheap, avec un petit clin d'œil à la. Regarde, on sait bien, on déconne, on s'amuse, on sait que c'est un gag moyen, mais on se marre. Je suis sûr que les mêmes gags pourraient marcher.
Parce que le premier épisode aussi pour encore vraiment situé, ça se termine. Donc je crois qu'il y a trois gags par truc. Ça se termine par lui qui rentre et qui se dit ah oh, putain ça a pas commencé. Il se dépêche. Il se fout en caleçon et il se met devant la télé. Mais en fait derrière il y avait des invités et sa femme lui dit chérie et ça coupe. Et tu dis attends quoi?
Je sais comment rattraper le gag. Dis chérie, ça coupe, ça revient, il se branle.
Ah ben non, parce que là ça revient même pas. Et il y a un autre truc aussi, ça s'appelle le cabinet, et ça porte très bien son nom. C'est avec. Bah franchement, ma vanne est plus drôle que ce qu'ils font eux. Avec François Berléand, où en fait il est psy et il joue tous les rôles en fait. Donc il joue le psy et en même temps il joue les patients. Et on filme que les patients et qui s'expriment sur des thèmes. Le premier, je ne sais plus c'est quoi, mais le deuxième c'est les régimes. Mais tu sais pas pourquoi il s'exprime sur ces sujets-là. Tu sais pas pourquoi il est chez un psy.
By the way, c'est des questions que tu te poserais pas si c'était drôle.
D'office. Et
Si c'est drôle,
surtout,
t'en as rien à foutre.
mais là, tu ne peux faire qu'analyser parce que tu
Ouais.
t'as que ça à faire. Et il joue des rôles, il est tout le temps déguisé. Donc il joue une femme, il joue Harry Potter, il joue Gandhi. Mais pourquoi?
C'est de l'humour à perruque?
Ouais. Et il fait des accents et il fait des voix. Et pourquoi il parle du régime chez un psy déguisé en Spider-Man? Franchement, faut qu'on m'explique.
Ça, c'est probablement qu'il y a beaucoup d'auteurs sur le truc.
Il faudrait faire pause sur le générique, mais
Mais checker. Ouais, mais c'est parce que quand tu
je
trouves pas
sais que
d'idée, puis t'as 4-5
chez
auteurs,
la
tu.
télécommande, ils sont plusieurs,
Ouais.
dont Florian Gazan. Je sais pas si tu vois, c'est qui.
Ouais, un gars qui était à l'époque avec Bruno sur. Il faisait le morning de chez
Bruno
Énergie.
Guillon, ouais.
C'est ça. Et puis il est passé en télé.
Il a fait un million de trucs, il est connu. Enfin, en tout cas, en France, il fait des trucs depuis des années, mais moi, je le trouve pas vraiment drôle. Mais il y a donc, je sais bien qu'il y a lui, c'est Moon, et ils sont encore deux, trois autres. Tu dis waouh.
Mais c'est vraiment ça. Tu te demandes pourquoi. Pourquoi?
Et la québécoise, tu l'as vue?
Non, toujours
Elle
pas.
s'appelle Jenny Ann Walker, tu connais?
Nope.
Pardon, soit. Et j'avais pitié pour elle parce que c'est pas que ce qu'elle faisait était pas vraiment drôle, mais enfin, je t'avoue que j'ai un peu accéléré parce que j'étais mal à l'aise, mais en gros, il y a personne qui rigole. Des fois, elle se retourne vers la présentatrice, et la présentatrice, limite, elle se retourne de l'autre côté, tu vois, pour éviter
pour
le
regard.
Et tu te dis, putain, à la prod, foutez au moins un rire enregistré ou des fous rires, ou enfin, je sais pas, aidez-la, quoi, meubler un peu le machin, elle est toute seule, je comprends pas. Ça suicide vraiment à cette heure-là de te foutre et de...
Oui, j'ai vu avec Michel Simaès.
Ouais, c'était hier, ça.
Ouais, c'est ça. Et t'as deux personnes à côté qui sont...
Mais c'est les chroniqueurs, quoi.
Ouais.
Soit. Parce qu'il y a d'autres... Vas-y.
Il y a un truc qui m'énerve de manière générale. Si tu veux faire un show, fais un show. Si tu veux faire, tu vois, du vaudeville, fais du vaudeville. Mais putain, il faut arrêter de faire des trucs entre les deux. Un talk show, c'est pas compliqué. Ça repose sur les épaules d'une personne, le présentateur. Et genre, fuck les autres. Mais si t'as pas la confiance en ton présentateur, tu vas l'entourer de 12 personnes, donc tu vas avoir 46% de ton présentateur. Donc, ceux qui l'aiment, ben, il arrive pas, le présentateur arrive pas à faire ce qu'il est vraiment parce qu'il est étouffé dans une série de séquences, puis le fait de courir avec l'orchestre de Pascal Sevran à côté pour... il a chanté Michel Simès à un moment donné, je sais pas pourquoi.
Ils ont dansé, ils ont fait une promo en dansant.
Ouais.
Mais j'ai encore plus honteux que je vais te dire après, je vais m'en souvenir.
Mais... Tu décides que tu mises sur quelqu'un, putain, mise sur quelqu'un. Si c'est pas bon, tu vas le savoir au bout de 7 minutes et ça va être réglé, tu vas pouvoir passer à autre chose. Mais moi, je sais pas, ça me fait chier les trucs aseptisés. Clairement, tu l'as fait assez confiance à Sophie Aram pour lui donner tous les jours un
truc en live. Tu sais que l'émission coûte 100 000 euros par jour?
Ce qui revient environ à 100 000 euros la blague.
Mais tu sais ce que... T'as vu la deuxième émission, l'invité, je pense que c'était Elie Semoun. Enfin, je sais pas s'il était invité, mais en tout cas, il avait une interview en plus de sa pastille. Et il s'est dit... Oh, il y a plein de gens qui ont critiqué Sophia le premier jour sur les réseaux sociaux. Tweetez-moi, je crois que c'est Semoun Elie. Et dites-nous que vous nous aimez. Vous aimez bien l'émission, quoi. Il attend que dalle. Direct, tu vois, la tristesse absolue. Oh. Il se passe rien et en fin d'émission, il dit ah, on a quelques avis. Il y a quelqu'un qui dit oh, je trouve Sophie très belle. Donc déjà, la fille s'appelle Sophia.
Ouais.
Déjà pas été très attentif.
Ouais, j'avoue que c'est le seul gag d'Arnaud. Ben, c'est le gag d'Arnaud Tavares qui m'a fait le plus rire.
Il change de nom, il l'appelle Rachida. Ouais.
Merci Zaya.
Ouais, voilà.
Merci Sophie. J'ai pas... Mais lui, je le trouve aussi drôle. Il y a juste l'air.
Mais je ne sais pas ce qu'il raconte, moi. Je comprends pas. Le but de sa chronique.
Ouais, mais encore une fois, tu poses pas la question si c'est vraiment marrant, tu poses pas tout simplement.
Mais ouais, voilà, mais là, c'est pas drôle du tout.
Tu sais, le cheval chez Craig Ferguson qui est dans son enclos à côté, pourquoi son co-host, pourquoi c'est un robot cassé, squelette.
Ah ouais, mais ça, moi, j'adore les machins où t'as rien à comprendre. Encore une fois, je suis fan de Tim Eric, donc c'est le truc où tu comprends rien de ce qui se passe, mais voilà, c'est drôle.
Tu m'as dit d'ailleurs que Tim Eric, pour faire une transition, parce qu'on va pas parler dans 8 heures là-dessus,
non,
mais
non,
j'ai continué à jeter un coup d'œil parce que j'aime bien les talk shows et je trouverais. Des fois, la solution, c'est pas de rajouter des trucs, c'est d'en enlever, hein, pour moi.
Mais surtout que je pense.
Laisse-la tout seul, elle est pas conne, laisse-la tout seul avec l'invité qui cause.
Ouais, mais je voulais aussi... Je sais pas si t'as vu en face Canal, s'ils ont fait le before du Grand Journal.
Non, j'ai pas regardé, j'ai pas Canal en fait.
C'est hallucinant de talent et de...
Ouais, c'est bon.
Oh, en fait, donc ils ont le before du Grand Journal maintenant, puis le Grand Journal et puis le Petit Journal. Et ça se passe sur le plateau du Grand Journal. Ils ont juste retiré la table pour faire un peu de gens.
Ouais.
Le mec, c'est un mec qui s'appelle Thomas Touroud, je pense.
Okay.
Il est super drôle. Il est arrivé à la première émission en dansant. Enfin, un truc un peu classe. Ils ont un hashtag humain. Donc, c'est un mec déguisé avec un hashtag.
Okay.
Tu sens que c'est drôle, c'est jeune. Et alors, ils ont des pastilles. Mais c'est hallucinant. Tellement c'est drôle. Et tu te dis, pourquoi c'est dans cette émission alors que ça devait être à la base dans le Grand Journal, quoi.
Ok, ben, j'ai pas fouillé. Tu peux mettre les liens sur
ouais,
le
Tumblr. Il y a un truc qui s'appelle le OO de Nora. C'est peut-être le moins drôle. C'est une fille qui s'appelle Nora Hamzaoui. Il y a le dézapping du studio Bagel. Donc, c'est vraiment. C'est le même principe que le zapping, sauf qu'il rejoue des fausses émissions de télé. T'as des mecs comme Monsieur Poulpe et tout ça qui sont vraiment drôles. Et Kevin Razi qui, bizarrement, est drôle dedans, alors qu'une heure après, il est sur Canal et il est pas drôle pendant ce temps. Donc, ouais. Je comprends pas. Et alors, il y a un truc qui s'appelle Connasse, par une fille qui s'appelle Camille Cotin.
Ok.
C'est hallucinant tellement c'est drôle. Mais vraiment, moi, il y en a deux pour l'instant, je les ai regardés au moins 4-5 fois chacun. Quoi.
Et donc, j'ai l'impression que c'est un des trucs pour lesquels tu es le plus enthousiaste depuis le début du podcast. Donc,
Ouais, non, oui, bah non, attends, Brooklyn Nine-Nine et tout ça. Mais non, parce que je trouve ça vraiment drôle. Elle joue une parisienne vraiment connasse. C'est toutes des caméras cachées. Donc le premier, c'est dans un taxi. Et tu dis les couilles qu'elle a, quoi. C'est un peu comme la petite vieille qui a foutu ses cendres.
Ouais.
Parce qu'elle est dans le taxi et elle passe devant tout le monde en disant qu'elle est enceinte. Puis ça coupe et elle est dans un taxi où elle dit. Elle sonne à sa copine. Elle dit ouais, non, il est un peu malsain en fait. Ouais, il me fait un peu peur. Elle dit bah, écoute, je vais te donner le numéro quand même. Et donc elle lit le numéro d'identification du chauffeur. Et puis elle le regarde. Elle fait mais pâle, fort pâle, elle est roux. Elle dit au cas où quoi. Elle dit à un moment donné s'arrête, il dit sortez, tu vois. Et elle fait non. Ou quelqu'un, un chauffeur de taxi lui parle et dit ça a été, enfin ça va votre journée madame. Elle fait excusez-moi, je suis au téléphone, mais elle est absolument pas au téléphone. Tu vois. Et tu dis il faut oser le faire quoi.
Oh,
et
putain.
Dans le deuxième, elle est à Paris plage et à un moment donné, elle dit à des mecs mais regardez, il y a un corps là-bas dans la Seine. Et le mec regarde, elle fait ah donc c'est possible. Ou alors elle est à côté, nice. Elle s'assied à côté de, je vais pas tout raconter parce que ça dure une minute et demie donc, mais elle s'assied à côté de deux mères qui jouent avec leur enfant, les enfants sont dans le sable, elle leur dit ça vous dérange pas de laisser vos enfants jouer là où il y a des gens qui s'enculent au soir. Et en gros elle casse un peu les couilles à tout le monde, donc c'est pour ça qu'elle s'appelle un peu la connasse, mais c'est vraiment vraiment drôle et j'ai lu que ça devait être dans le grand journal et qu'ils ont refusé. Et je pense qu'ils doivent s'en mordre les doigts parce que c'est vraiment.
Bah, ben cool, je regarderai ça avec grand plaisir.
Ouais.
Donc, la fille s'appelle, rappelle son nom, quoi?
Camille Cotin.
Et
elle a pas fait grand chose. Elle a joué dans Peps, la shortcom de TF1. Et elle a fait de petites apparitions dans des séries, mais rien de plus.
Rien de fou?
Non.
Nickel.
Et je peux terminer encore un truc avec Canal?
Ouais.
Si on a le temps. Ils ont lancé Platane, saison 2.
J'ai oublié
lundi.
Ce que c'est.
C'est la série de Eric Judor, de Eric
ouais.
et Ramsey. La saison 1 était absolument hallucinante. C'était drôle, 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 drôle. Il faut déjà être enfin, non, même pas, il ne faut pas être fan d'Eric Ramsey. C'est, tu connais le pitch ou pas?
Absolument pas.
Donc, dans la saison 1, en fait, il se prend un platane après une soirée où il avait un peu bu. Du coup, il tombe dans le coma. Quand il se réveille, Ramsey a fait sa carrière tout seul. Il est devenu méga célèbre, encore plus que lui. Et lui, pour se racheter une image, décide de devenir réalisateur sérieux et il lance La Môme 2.0 Next Generation. Et du coup, c'est une grosse, grosse vanne sur toute la saison où en fait, bon, le pitch est déjà nul et ça lui permet surtout d'inviter plein de guests qui vont jouer des rôles dans le film. Et,
okay.
Et c'est un peu un engrenage où tout ce qu'il fait part en sucette et c'est de pire en pire, de pire en pire.
Okay.
Et dans la saison 2, ça commence, il est parti vivre en Antarctique, je ne sais pas quoi, il veut sortir de tout, il y a des problèmes avec le fisc, et Ramsey vient lui proposer de tourner La Tour Montparnasse Infernale 2. Non, il ne veut même pas lui proposer, mais le producteur lui a dit propose-lui au moins, tu vois, pour au moins avoir un nom. Et du coup, ils font La Tour Montparnasse Infernale 2 pour la thune, quoi, pour que lui puisse rembourser le fisc. Sauf qu'en vrai, et c'est là que l'idée est géniale, c'est qu'en vrai, ils sont vraiment en train de faire La Tour Montparnasse 2.
Ah,
mais pas pour du fric. Mais franchement, c'est vraiment, vraiment, vraiment drôle. C'est bien foutu. C'est un peu un humour à l'anglais.
Mais j'aime bien quand les gens vont au bout de leur trip. Moi, ce que j'avais vu, des trucs qui m'ont fait marrer, des trucs moins. Mais je sais pas, il y a une espèce de respect pour quelqu'un qui dit garde, je m'en fous si ça plaît à tout le monde ou pas. Parce que moi, j'aime Michael Youn. Ok, c'est gros comme une maison, certains trucs.
Ouais.
Mais moi, ce qu'il fait, il le fait à fond. Tu vois, c'est pas un truc aseptisé. C'est, si t'aimes pas, ben. Tant pis, passe ton chemin, mais si t'aimes ce genre-là, en général, il y a des bonnes chances que lui, ça soit dans le top parce qu'il va au bout de l'idée. Et c'est ça que je trouve chouette avec les gars d'Eric et Ramsey, c'est ce qu'ils ont l'air de faire tout le temps aussi.
Et ici, il est en plein de promos et j'ai encore lu une interview. J'ai lu beaucoup de choses, hein, je l'ai dit dans tout ce podcast.
mais
il se défend assez bien sur ce qu'ils ont fait, sur les projets qui se sont plantés, comme les Dalton et des machins pareils. Ils expliquent que c'est pas vraiment pour se justifier, mais en tout cas, ça, tu vois bien ce qui s'est passé. Quoi.
Mais c'est pas grave de se planter, au moins
non,
tu
non,
sais,
non.
Tu vois.
Mais voilà, mais c'est vraiment vraiment drôle, franchement, si vous avez l'occasion de jeter un œil.
Donc, Platane, la deuxième saison. Mais c'est ça qui est dur aussi quand t'es humoriste, c'est que t'es jamais aussi drôle que ta dernière blague et jamais aussi nul que ta dernière blague. Donc comme là Sophie Aram, pour l'instant tout le monde dit que c'est genre que ça va pas, que ça va pas, ça va, mais il s'agit qu'elle refasse un truc même dans un mois qui soit marrant, tout le monde oublie, tu sais. Arnaud de Samer, qui jouait d'une super réputation il y a pas si longtemps, quand il avait essayé en live avec Jérémy Ferrari
chez Ruquier, ouais, c'était catastrophique. Ils sont restés deux émissions, je crois.
Deux ou trois, c'est ça, c'est vraiment tes court-court. Et à ce moment-là, tout le monde dit « Ah, c'est une horreur, c'est une horreur. » Mais le gars, il est drôle. Même si t'es drôle, tu fais des trucs pas drôles, parfois. Et puis, voilà, tout dépend des goûts, mais il a arrêté, puis on continue de faire autre chose, ça continue de fonctionner, donc c'est pas la fin de la vie, non plus.
Voilà. Chose? J'ai une petite news en stand-up parce que je trouve que le projet est intéressant. Il y a un mec qui s'appelle Sami Obeid, il a 29 ans. Il s'est donné comme
français, américain.
d'origine libanaise et afghan.
Il y a une tête à recevoir des cendres dans son, mais... dans son bac d'olives.
Voilà, il en joue. Ouais, bah ouais, ça c'est clair. Mais donc, j'ai regardé, il est passé chez Conan hier, je pense, et il avait un petit 5 minutes qui était très drôle, assez malin même par moment. Mais en gros, il est surtout connu, enfin, où il va se faire connaître, parce qu'il s'est dit, je vais faire 1001 nuits de stand-up et je vais pas rater un seul jour.
Enfin, 3 ans.
Ça fait exactement 2 ans, 9 mois et 1 jour.
Okay.
Parce qu'en fait, il s'est dit, une fois, il a fait 1 an, il s'est rendu compte qu'il avait fait 1 an, quoi. Tu vois, il se dit, bon, bah, autant continuer. Et on lui a dit qu'il y avait un mec qui s'appelle Al Sparks, qui lui avait fait 2 ans. Donc, okay. Il dit, je vais battre le record, et comme je suis un peu...
comme ça.
Voilà, oriental, je vais faire 1001 soirée de stand-up. Et là, eh bien, il a fini. Il a fait le 998e chez Conan. Et je crois qu'après-demain, donc là on est jeudi, je pense que ce week-end, il va faire la 1001e soirée.
Quand on
soirée.
Dit que parfois, ça donne l'impression que ici en Europe, les gens bossent moins qu'aux États-Unis.
Mais,
c'est un des exemples, parce que jamais on aurait parlé de ce pays-là s'il n'avait pas fait 1001.
Et il a fini une première de Louis C.K. Et les gens ne rigolaient absolument pas à ses vannes. Et Louis C.K. a dit que c'était un génie, ce type. Et okay. qu'il a répété des vannes. Il a dit c'est super drôle. Et franchement, la vanne est dans le petit morceau qu'il a fait chez Conan. Et c'est assez drôle. C'est avec un clochard. Enfin bon, il suffit d'aller voir. Je le mettrai sur le Tumblr. Et surtout, lui, sa défense, c'est même si plus tard je fais quelque chose d'autre où on me dit je suis pas drôle, je dis en tout cas j'ai bossé. Il dit j'ai fait 1001 nuits de stand-up et ferme ta gueule, quoi.
Oui, mais si tu fais quelque chose 1000 fois, normalement tu vas être meilleur à la fin, en théorie.
Toi, t'imagines, quoi.
Mais c'est chaud, mais c'est très chaud. Hein.
Alors, il disait des fois, pour pas casser la suite, il dit j'allais dans des bars karaoké et je cassais les couilles à tout le monde. Il y avait 3 personnes. Une fois, il s'est mangé une pêche dans un bar irlandais parce que c'était absolument pas le but du bar, et ils l'ont jeté du truc. Il dit mais bon, j'avais joué, donc voilà.
Ah, ça comptait.
Il est en train de se faire filmer. Il va faire un docu, un livre pour expliquer un peu.
Mais c'est bien.
Mais,
c'est...
mais je trouve ça la démarche déchire, et surtout il est drôle. Donc
ça, c'est ça. Mais dans les gens qui, on parlait de Jay Leno au début. Je sais pas si j'ai déjà raconté dans le podcast, mais quand il a commencé à LA, c'est que, quand il est débarqué. Déjà, il est arrivé à Los Angeles sans appart et sans argent, et il s'est fait de temps en temps, quand il a fini de jouer au comedy club, il allait derrière le comedy club et il s'endormait, tu vois, derrière. Et il s'est fait choper par la police de temps en temps. Puis quand on disait qu'est-ce que vous faites là, je fais de l'humour, mais j'ai pas encore de fric. Il dit, il y a des policiers des fois qui étaient cool et qui me laissaient passer la nuit avec eux dans la bagnole. Donc moi, je les suivais, je racontais mes blagues et puis voilà. Je sais pas si c'est du storytelling ou si c'est vrai, mais peu importe. Il disait que c'est une de ses plus grosses stratégies. Ce qu'il faisait, c'est qu'il y avait un billet de 50 en poche. Il rentrait dans des endroits en disant, dis, je vois que vous avez un micro, genre resto, un bar, comme ça. Est-ce que je peux faire 10 minutes? Puis il disait, ah, non, c'est bon, ça va faire chier quelqu'un. Garde, voici 50. Je te donne le billet de 50. Si je fais mon set et que je suis drôle, je récupère mes 50, sinon je peux te laisser les 50. Et dis juste le fait de voir ça, souvent les responsables de l'endroit étaient un peu attendus.
Ouais, t'as envie de voir, quoi, ouais.
T'as envie de voir, et puis dis même quand je me plantais, dis, 3/4 du temps, ils me redonnaient quand même le billet, quoi. Et c'est ça que tu te dis, c'est le nombre de bides qu'il faut que tu te manges avant d'être bon. Franchement, il faut des couilles en béton pour faire ce que le gars fait.
Ah ouais, il explique, et c'est pris plein de vent, quoi. Il a fait le... Il y a, au Juste pour Rire, apparemment, il y a un concours chaque année, enfin des auditions comme ça. Il dit, les gens ne rigolaient pas. Mais là, c'était vraiment une grande salle. Enfin, tu vois, ça n'a pas dû être facile, quoi. J'ai hâte de voir le docu, voir ce que ça va donner, parce que le projet est intéressant, je trouve.
À fond. Et on va peut-être terminer là-dessus. J'ai aussi un documentaire à suggérer. Malheureusement, il est vraiment dur à trouver sur Internet. Faut l'acheter. Faut vraiment vouloir. Mais ça vaut la peine. Moi, c'est un des trucs les plus impressionnants que j'ai vu en humour. C'est un truc qui s'appelle The Unbookables. Donc, les gens impossibles à booker. Et c'est une troupe qui est gérée par... peut-être tu viens de dire que tu connaissais pas, et ça c'est la première fois depuis qu'on se connaît.
Non, je connais pas. Ouais, non, je connais pas.
C'est une troupe qui est gérée par Doug Stanhope, et dans laquelle il y a entre autres, dans le groupe de manière générale, il y a entre autres Lynn Shackroft, qui est la veuve de Mitch Hedberg.
Ah, je la connaissais pas non plus.
Et il y a un super truc sur elle. Elle parle de Mitch, et elle a commencé à collecter ses carnets, et donc il y a certains endroits, elle publie des pages des carnets de Mitch Hedberg, et c'est assez intéressant. Mais pour revenir, donc ça, il y a aussi Brendan Walsh. Mm-hmm. Brendan Walsh, c'est un mec assez bizarre. C'est lui qui fait entre autres du stand-up. Il y a un truc qui s'appelle du Monster, j'en ai déjà parlé je crois ici, Monsters Comedy. Il se déguise en monstre puis il raconte des blagues. Tu sais, des fois c'est pas facile quand t'es sous le lit d'un enfant, puis juste au moment où t'attrapes sa cheville, les parents allument la lumière puis tu disparais. Et c'est des gimmicks comme ça, c'est vraiment mec bizarre. Et t'en as une série de gars comme ça qui sont, en fait, tous des gars super doués, mais qui aimaient bien être edgy, puis t'as l'impression qu'ils ont pris la décision à un moment donné ou à un autre de dire, tu sais quoi, fuck it, ça me fait chier d'essayer d'être mainstream, je vais aller au bout de mon idée. Et eux, ils tournent ensemble dans une espèce de caravane, et ils ont vraiment, en gros, à chaque week-end, ils ont des emmerdes parce qu'ils sont allés trop loin. Et un week-end, ils jouent dans un comedy club où il y a des grilles devant, puis ils se font balancer des bouteilles de bière à la gueule.
Stoppé par mais ils ont été trop loin dans leurs propos, enfin dans leur van ou géographiquement.
Non, dans leur van.
Ah ouais, ok.
Et puis même entre eux, ils sont à moitié bourrés, ils se battent à moitié entre eux.
Mais c'est un peu du rock, enfin une tournée de rock à l'ancienne.
Exactement, mais quand tu vois ce truc-là, tu sais. La vague la plus violente que j'ai entendue de ma vie, elle vient de ce truc-là. C'est un des gars, il est sur un stage, puis il fait. Fuck cancer, am I right, people? Tout le monde dit, puis il dit, avant de faire mon prochain sketch, je tiens quand même à préciser quelque chose. Moi, ma mère est morte du cancer. Et je me souviens, juste avant de mourir, j'étais avec elle à l'hôpital. Puis elle me dit, tu sais, je trouve que c'est vraiment important, James, si tu... il faut pouvoir rire de tout, tu vois. So I fucked her in the mouth.
Ça n'a ni qu'une ni tête en
plus. C'est plus que gratuit comme van. C'est genre, t'es payé pour l'entendre. Elle est en dessous du gratuit. Et ça coupe. Et le plan suivant, t'as comme le responsable un peu, le moins irresponsable plutôt des humoristes qui est au téléphone avec, dans leur condo, tu vois, avec le mec du Comedy Club qui fait Non, je comprends. Et t'entends l'autre gueuler. C'est, dans quelle fucking partie du monde? Donnez-moi juste un endroit où j'ai baisé ma mère dans sa bouche avant qu'elle meure du cancer, c'est drôle. Dites-moi un seul endroit où est-ce que ça peut être drôle.
Ici, ça nous fait marrer.
Et donc, le gars raccroche pour ça. Ils se battent à moitié en disant, on est en train de perdre le gig à cause de toi. Qu'est-ce que t'es obligé de faire ça? Blablabla. Mais c'est...
Quand tu le racontes, ça a l'air scénarisé, en fait.
Ça l'est peut-être, j'en sais rien.
Tu vois, une espèce de faux truc à la Borat ou une fausse tournée, enfin, tu vois,
okay, oui.
Ou un Spinal Tap, où tu comprends ce que je
dis. Oui, non, mais ça, c'est, les gars sont vrais, c'est des vraies tournées. Maintenant, c'est Doug Stanhope derrière, donc tu sais jamais à quel point c'est scénarisé ou pas, c'est ce truc à lui. Mais et, d'ailleurs, il y a un nouveau special qui, je crois, qui sort en ce moment. Pour ceux qui voient Doug Stanhope, en gros, c'est ceux qui aiment Louis C.K.
Dis-toi, et sur la couverture, il est allongé sur deux gonzesses, ou en tout cas, il est allongé, je sais pas.
Je me souviens même plus du nom.
Je crois que j'ai dû voir une pub quelque part.
Moi, j'avoue que j'en ai écouté quelques-uns, j'aime bien, mais je trouve ça un peu fatigant à Londres. C'est un peu entre Preacher et humoriste. Et donc, en gros, ceux qui aiment bien Louis C.K., dans la série Louis, où à un moment donné, un de ses potes qui vient de voir, qui veut se suicider, puis qui va voler un magasin, c'est lui. Donc, c'est super trash ce qu'il fait. Et donc, ça, c'est des gens qui ont. En guillemets, plus trash que lui, c'est lui qui donne un coup de main. Et donc, The Unbookable, ça aide à voir aussi tout ce qui est possible de faire avec la comédie. Moi, je sais pas que je vais faire. Mon but, c'est pas faire ce genre de blague-là, mais ça aide juste à voir à quel point on est nul pour vendre les histoires autour des spectacles et de l'ambiance autour des trucs. Et tu regardes ce truc-là, puis t'as vraiment l'impression, comme tu dis, que c'est un truc de rockstar, quoi. C'est les mecs qui se démerdent. Alors que t'en as qui marchent assez bien dans le groupe, mais t'as fait vraiment un mec qui se démerde dans une caravane, des mecs un peu paumés, tu vois. C'est hyper divertissant.
Et c'est
Unbookables.
C'est trouvable où? Enfin, tu l'as acheté où, en tout cas?
Tu l'as cherché sur Amazon ou sur Google. Et genre, le paquet.
Ah, tu l'as acheté en physique, quoi.
Ouais, c'est ça.
À l'ancienne.
Quand le paquet arrive, ton adresse est écrite à la main, tu vois. Donc d'après moi, ils en vendent pas des milliards, quoi. Mais c'est hyper intéressant pour les fans de comédie de voir un peu jusqu'où on peut aller, quoi.
Cool.
Donc voilà mon petit conseil de la semaine.
Nickel.
On a fait le tour?
On a fait plus que le tour.
Nickel. Bon, ben, on va revenir la semaine prochaine. Continuer de suivre les séries qui apparaissent du stand-up.
Ouais, il doit y avoir quelques nouveautés qui vont débuter. Donc,
Et puis, on continue de suivre ce qui se passe un peu du côté francophone. Donc, merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Et si vous voulez subscribe sur iTunes, ben, pour nous, c'est cool, en fait. Parce que ça aide pour le classement, des choses comme ça. Puis, si vous voulez pas, ben, c'est pas grave. Thanks. À la semaine prochaine.
Ciao.